Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire d'un tueur très particulier aujourd'hui. Un profil assez rare, un type qui tue pour rien. Ou pour si peu, pour 1000 balles. Il s'appelle Jean-Étienne Supercaze. Il a sévi dans les années 90 dans la région de Bayonne, dans le sud-ouest. Et il a entraîné dans sa folie de tueur psychopathe sa femme, sa fille et son gendre. Je vous préviens tout de suite, c'est une histoire à tiroir, il va falloir vous accrocher. Et pour le débrief, je ferai appel tout à l'heure à Laurent Tignol, qui est aujourd'hui président du tribunal correctionnel de Bayonne, et qui, à l'époque, a présidé la cour d'assises des Landes, qui a condamné Jean-Étienne Supercaze et ses acolytes. Il est là au téléphone, je le salue. Bonjour monsieur Tignol.
Bonjour monsieur Ondelat.
Voici donc Supercaze, la gâchette facile, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire se déroule dans la région de Bayonne, dans le sud-ouest, à cheval entre la côte basque et le sud des Landes. C'est une histoire à tiroir, vous verrez, que j'ai choisi de commencer en janvier 1998, à Hondres, dans les Landes, à 10 km de Bayonne. Du jour au lendemain, deux personnes disparaissent. Un brocanteur de 51 ans, Guy Renouf, et sa compagne de 36 ans, Sylvie Moreau. Ce sont d'ailleurs les parents de Sylvie qui donnent l'alerte. Leur fille est institutrice en région parisienne. Elle rentre le week-end chez son copain Guy. Après le week-end, elle n'est pas remontée à Paris. Elle ne s'est pas présentée dans son école. Écoutez, j'ai essayé d'appeler sur son portable plusieurs fois. Elle répond pas. Les gendarmes vont alors jeter un coup d'œil chez ce Guy Renouf. Sa villa est à 500 mètres de la plage. Les volets sont fermés, il n'y a personne. Et sa voiture, une fourgonnette C15, n'est pas là. Et ce qui est étrange, c'est que les trousses de toilette de Guy et de Sylvie sont dans la salle de bain. Ils ne seraient pas partis sans. Ils ne sont donc pas partis en goguette. Et donc les gendarmes se rencardent sur ce couple. Lui d'abord, Guy Renouf, 51 ans, 15 ans de plus qu'elle donc. Avant, il était instituteur comme elle. Et puis il s'est reconverti comme brocanteur au Pays Basque. Dans le monde des brocs du coin, tout le monde le connaît. Un peu flambeur, un gars qui se promène toujours avec un caniche. Guy, bon, quand il a gagné un peu d'argent, et qu'il a un petit coup dans le nez, il sort les billets comme ça, et il les montre à tout le monde. Il est comme ça, Guy, hein. D'autres racontent qu'il aurait trouvé un trésor. Ou à mon avis, c'est à cause de ça qu'il a disparu. Il est parti avec son trésor. Ou alors il s'est fait agresser, il se l'est fait voler. Mais de quel trésor parlez-vous? Il avait dégoté un reliquaire, un globe, au centre duquel se trouve un cœur humain. Ça, c'est hors du commun, hein. Ça a beaucoup de valeur, hein. Il a dû faire des envieux. Sauf que le reliquaire en question, les gendarmes le retrouvent dans le fatras de sa maison. Le trésor n'est pour rien dans sa disparition. Et plus le temps passe, plus on se dit qu'il leur est arrivé quelque chose. Là-dessus, la famille de Sylvie Moreau informe les gendarmes qu'un retrait de 3000 francs a été effectué avec sa carte bancaire. Un soir à 23h, 3000 francs, c'est beaucoup. Sylvie ne retire jamais autant d'argent. Du coup, les gendarmes s'intéressent à son compte en banque. Et là, ils s'aperçoivent que sa carte a aussi été utilisée dans une station-service. Dans cette station, il n'y a pas de caméra vidéo. Dommage. Mais par la carte, les gendarmes identifient quelqu'un qui a fait le plein au même moment. Quand vous faites le plein, monsieur, vous remarquez quelque chose parmi les autres véhicules qui sont là? Oui, oui, j'ai remarqué deux femmes qui faisaient le plein en même temps que moi. Vous pouvez les décrire, ces femmes? Oui, il y avait une femme blonde, une quarantaine d'années, corpulence normale. Et puis une femme plus petite, brune, boulotte, d'environ 25 ans. Vous remarquez quelque chose dans leur comportement? Ah oui, j'ai bien vu qu'elles avaient l'air d'hésiter au moment de payer avec la carte. Très intéressant tout ça. D'abord, ça n'est pas Sylvie qui utilise sa carte, elle n'a pas 25 ans et elle n'est pas blonde. Je dis ça parce que l'hypothèse existe encore, que Sylvie et Guy soient en vadrouille, qu'il ne leur soit rien arrivé de grave. Hypothèse ténue, je vous l'accorde, et de plus en plus ténue. Guy, par exemple, a des problèmes cardiaques depuis des années. Il n'est pas allé à son dernier rendez-vous avec son cardiologue. Il aurait arrivé quelque chose à ces deux-là. Ça paraît de plus en plus certain. Et d'ailleurs, le procureur des Landes finit par ouvrir une information judiciaire pour disparition inquiétante. Une cellule d'enquête est mise en place. 20 gendarmes travaillent à plein temps sur le dossier. Et là, on s'aperçoit que sur le compte de Sylvie, les retraits de 3000 francs continuent. 3000, c'est la somme maximum que la carte permet de retirer. Ces retraits ont lieu dans des bureaux de poste du même secteur, toujours dans la nuit du dimanche au lundi. Pour aider les gendarmes, la mère de Sylvie approvisionne le compte. Et les gendarmes se mettent à planquer devant les bureaux de poste le dimanche soir. Mais lequel choisir? Une nuit, par exemple, ils se planquent devant la poste de Bayonne. Et le retrait de 3000 francs se fait à Saint-Jean-de-Luz, à l'autre bout de la côte basque. La Guigne! Surtout que c'est le dernier. Il n'y en aura pas d'autre. Dommage parce que c'était la seule piste. Et comme cette enquête n'avance pas, après quelques semaines sans aucune piste, les gendarmes décident de révéler cette double disparition à la presse. Et quand on dit la presse dans ce coin-là, on parle bien sûr de Sud-Ouest. Ça donne ça. Mystère de la disparition d'un brocanteur et de sa compagne dans les Landes. Le juge d'instruction lance un appel à témoins. Et un homme vient dire qu'il a vu Guy chez un fleuriste le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février, après sa disparition.
Ah, je le reconnais, oui. Il était avec une femme, disons, une femme beaucoup plus jeune que lui.
Les gendarmes vont donc voir le fleuriste.
Oh ben vous imaginez, un jour de la Saint-Valentin, le nombre de clients qu'on voit défiler dans le magasin, on peut pas se souvenir de tout le monde. Ça ne me dit rien du tout.
Chou blanc. Pile à ce moment-là, la fourgonnette de Guy Renouf réapparaît, cramée, sur un parking de Saint-Paul-les-Dax, à 50 km de chez lui. Et quand je dis cramé, il n'y a rien à en tirer. Pas le moindre ADN, pas d'empreinte digitale, juste des traces de carburant qui confirment l'incendie volontaire. Les gendarmes font le tour des voisins du parking, et il y en a un voisin qui apporte un témoignage intéressant.
Ah oui, j'ai vu une voiture, elle m'a coupé la route en sortant du parking. Une Renault 25, Baccarat, de couleur sombre. Il y avait deux hommes à l'intérieur. Et vous pouvez nous les décrire, ces deux hommes? Je dirais, mais bon, il faisait nuit, hein. Qu'il y avait un grand, blond, assez jeune, et un homme brun, la quarantaine, plus petit.
Au début, les gendarmes se disent, super, un Renault 25 Baccarat, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le coin. Eh ben si, il y en a beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Ça ne les aide pas beaucoup. Ça fait 9 semaines que Sylvie et Guy ont disparu. Là-dessus, le 23 mars, surgit une autre affaire. Toujours dans la région de Bayonne, dans le sud des Landes. Une mère de famille est en train de préparer son repas. Ses enfants de 2, 9 et 11 ans sont là et son mari ne va pas tarder à rentrer. Et là, deux hommes font irruption dans sa cuisine. Cagoulés. Armé et ganté.
Tu bouges pas et tout va bien se passer. On est là pour le pognon, c'est tout. On attend que ton mari rentre de la pharmacie avec sa recette.
L'un d'eux se met près de la porte d'entrée. Soudain, la porte s'ouvre et un des enfants crie.
Papa ! Papa !
Et le père se retrouve enfermé avec le reste de sa famille. Ils veulent donc la recette.
Mais je l'ai pas sur moi. Je l'ai laissée à l'officine. Ok. Toi, tu l'accompagnes jusqu'à la pharmacie. Moi, je reste avec la femme et les enfants.
C'est le petit trapu qui donne les ordres. Et le plus jeune qui obéit. Et donc, le jeune accompagne le père jusqu'à sa pharmacie. Il lui remet l'argent de la caisse, 25 000 francs, 3 800 euros. Et ils reviennent.
Bon. Maintenant, tu me donnes ta carte bleue. Et le code.
Et ensuite, ils fouillent la maison. Ils volent tout ce qui est volable. Des bijoux, du foie gras, du vin. Les gorées vont même jusqu'à manger le repas des enfants qui refroidissaient dans leur assiette. Ils prennent aussi la chaîne en or de la petite. Tout ça avec beaucoup de brutalité, en proférant des menaces. Et à la fin, ils les enferment tous à l'étage.
Donnez-nous le téléphone de quelqu'un qui pourra venir vous libérer. Notre femme de ménage? Elle a les clés. Voilà son numéro.
À 22h, la femme de ménage reçoit donc un appel.
Allô? Votre patron a été serré et cambriolé.
C'est donc elle qui prévient les gendarmes. Et les gendarmes, immédiatement, essayent de remonter cet appel à la femme de ménage. Il a été passé pas très loin, d'une cabine téléphonique de Tarnos. Ah! Intéressant. Juste avant, le type semble avoir appelé quelqu'un d'autre. Une femme. Une certaine Dorothée Leven. Les gendarmes entrent immédiatement son nom dans le fichier.
Oh putain, t'as vu? Elle a un casier, la Dorothée.
Ah ouais? Et quoi d'autre?
Elle est mariée avec un type qui s'appelle Jean-Étienne Subercase. Et il a un casier lui aussi.
En vérité, ils sont divorcés. Voyons, voyons. Ils ont été condamnés pour avoir détourné de l'argent et falsifié des chèques entre 1987 et 1990. Ah oui, ils ont détourné 485 000 francs, 73 000 euros. Elle a travaillé à la SNCF. Ah, ils l'ont virée. Ah, elle a eu un accident de voiture. Elle aurait pu y rester, tiens. Elle est couverte de cicatrices. Ok. Et lui, Supercase, qu'est-ce qu'il y a sur lui dans le dossier? CAP de maçonnerie. Il a été parachutiste. Il a eu sa propre entreprise, il a fait faillite, ouais, ouais. C'est un type qui vit de petits boulots. Ok. En fait, c'est un drôle de duo. Divorcé, mais toujours ami. D'après le dossier, il l'a tabassé. Et pourtant, il se voit encore. Ah! Leur fille gravite autour d'eux. Elle s'appelle Sandra. Et son petit copain aussi, Daniel Louis, un maçon. Tiens! Lui aussi a un casier judiciaire. Décidément. 8 mois de cabane pour agression sexuelle. Charmant quatuor. On est d'accord, ces 4 zozos-là ont parfaitement le profil. Et si on allait les voir pour leur poser 2 ou 3 questions. Jean-Étienne Subercase est en train de téléphoner dans une cabine. Les gendarmes armes au poing le cueillent à sa sortie.
Tu bouges pas!
C'est plus compliqué avec son gendre, le jeune Daniel Louis. Ils vont l'arrêter au bas de son immeuble à Tarnos. Il leur balance des coups de pied et des coups de poing. Et il casse le doigt d'un gendarme, et il casse les lunettes d'un autre, et il s'accroche aux uniformes jusqu'à les déchirer. Mais ouf, ça y est, ils l'ont neutralisé. L'interpellation, en revanche, de Dorothée et de sa fille Sandra est beaucoup plus facile. À la gendarmerie, Daniel Louis, le gendre, est interrogé en premier. Au début, il nie avoir participé au braquage du pharmacien. Et puis on va perquisitionner chez lui. Et là, on retrouve une arme, et surtout des bijoux volés chez le pharmacien. Et là, il passe à table.
Au début, avec Jean-Étienne, mon beau-père, on faisait des cambriolages. Mais on avait beaucoup de mal à écouler les objets. Et donc il a imaginé un moyen plus direct d'obtenir du cash, quoi. Un jour, il a vu passer le pharmacien dans son 4x4 BMW 9. Il s'est dit, il a de la thune. Donc il l'a suivi jusqu'à chez lui. Le jour où vous intervenez chez eux, vous êtes seuls tous les deux? Non, enfin sur place, oui. Mais c'est ma copine Sandra qui nous a déposés devant, en voiture.
Dans le bureau d'à côté, Sandra, elle aussi, est passée à table. En revanche, Dorothée, l'ex-femme de Subercase, est beaucoup plus coriace.
On trouve chez vous, madame, des objets qui proviennent d'un cambriolage à main armée.
Comment expliquez-vous ça?
Moi, je savais pas que ça venait d'un vol. Je savais pas.
Et Subercase, alors, le chef présumé de ce quatuor? Eh bien, il est beaucoup moins retors que prévu.
Vous savez pourquoi j'ai fait ça avec Daniel, mon gendre? Parce que je l'aime pas. Je me suis dit, si on se fait pincer, ça lui fera les pieds.
Mieux que ça, il donne aux gendarmes l'adresse d'une planque.
J'ai un hangar. À Cabreton.
Les gendarmes y vont. La caverne d'Ali Baba. Des meubles, des objets en tout genre. Et dans une sacoche, des trousseaux de clés. 78 trousseaux de clés.
Dites, Supercaz, d'où elles viennent toutes ces clés-là? D'où elles viennent? Oh, c'est rien. J'en fais la collection.
Une collection de clés plates, ordinaires. Il nous cache quelque chose, ce Supercaz. Et quoi qu'il en soit, à la fin de la garde à vue, tout le monde file en prison. Mais l'enquête se poursuit et les gendarmes commencent à se rencarder sur la miss Dorothée Leven, ex-madame Supercaz. Et là, ils s'aperçoivent qu'elle est connue comme le loup blanc dans l'univers des brocanteurs du coin. Et là, ça fait tilt. Brocanteur, brocanteur. Est-ce qu'elle ne connaîtrait pas Guy Renouf, qui a disparu depuis 3 mois? Eh bien si, non seulement elle le connaît, mais en plus, d'après ce que disent les gens, hein, elle le dragouillait à l'occasion. Les gendarmes retournent chez elle, ils prennent tous ses bijoux, ils en font des photos, et ils vont les montrer aux familles de Guy Renouf et de Sylvie Moreau.
Regardez bien ces photos-là. Est-ce que vous reconnaissez des bijoux?
Ah ben oui, ça là, ça c'est à Sylvie.
Et vous voulez la meilleure?
Jean-Étienne Supercaz a une Renault 25 Baccarat. Les Supercaz sont beaucoup plus que de simples voleurs. En fouillant encore, les gendarmes se rendent compte que le lendemain de la disparition de Guy Renouf et de Sylvie Moreau, Daniel Louis a loué une voiture avec laquelle il a parcouru 2338 kilomètres. Où a-t-il pu aller? Le 4 mai 1998, les membres du quatuor Supercaz sont extraits de leur cellule et les gendarmes les amènent tout droit chez Guy Renouf. Ils ont pris avec eux l'énorme trousseau de clés retrouvé dans le hangar.
Tiens, l'une des clés ouvre la porte d'entrée de Guy Renouf. Tiens!
Une autre ouvre la porte du garage.
Comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur Supercaz? C'est des clés que j'ai trouvées dans un sac que j'ai volé dans le coffre d'une voiture. Moi, je savais pas qu'elles ouvraient ici.
Ok. Les gendarmes se concentrent donc sur son gendre, Daniel Louis.
Moi, je suis malade de toute cette affaire. Je vais tout vous raconter.
Et il raconte. Ils ont fait venir Guy Renouf chez eux, sous prétexte de lui vendre de très beaux meubles. Là, ils l'ont braqué, attaché et bâillonné. Ils voulaient savoir où il planquait son magot. Mais comme Renouf n'a rien voulu dire, alors ils sont allés chez lui chercher sa compagne Sylvie. Et là, Guy Renouf a craqué.
« Ok. Je planque mon argent dans un coffre. Dans mon bureau. »
Supercaz y est allé. Il a trouvé l'argent, il est revenu. Il a repris son interrogatoire.
Bon d'accord, j'ai aussi des bijoux. Ils sont dans un sac que je planque sous l'évier.
Supercaz est retourné à Londres, chez Renouf. Et il est revenu avec les bijoux. Et là, il s'est intéressé à Sylvie Moreau.
Et puis, un moment, il l'a emmenée dehors. Puis il est revenu sans elle. Et après, je suis sorti, puis j'ai vu qu'il y avait un corps allongé à l'arrière du C-15. C'était elle, il l'avait tuée. Et là, j'ai entendu un bruit à l'intérieur, et Supercaz m'a crié « Viens m'aider !» Il avait tué Renouf. Qu'avez-vous fait des corps, monsieur? Vers 1h du matin, on les a amenés à la plage à Hondres. Je ne sais pas où il les a enterrés. Il n'a pas voulu que je voie. Mais il m'a juste dit qu'il avait planté un petit sapin au-dessus du trou.
Et après, avec la fameuse voiture de location, ils sont allés tous les deux à Paris, ou plutôt à Courbevoie, pour cambrioler l'appartement de Sylvie Moreau, dont ils avaient pris les clés et qui n'ont pas trouvé, figurez-vous. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure que Guy Renouf avait un caniche et qu'il se baladait toujours avec lui. Eh bien lui, ils ne l'ont pas tué, figurez-vous. En rentrant de Paris, ils se sont arrêtés devant un refuge à Bordeaux et ils l'ont jeté par-dessus le grillage. Ils ont donc un cœur pour les caniches, mais pas pour leur maître. On a toute l'histoire, mais racontée par le gendre, Daniel Louis. Est-ce que Supercase lui-même va confirmer ? Pas pour l'instant.
Je vais préparer ma défense. Je vous ferai des déclarations ultérieurement.
Il ignore à ce moment-là que les trois autres l'ont balancé. Et en attendant, lui et son gendre sont mis en examen pour assassinat. Et les deux femmes pour complicité et recel. Et bien sûr, Daniel Louis conduit les gendarmes à l'endroit où il pense que Supercase a enterré les corps. Sur la plage. On creuse et on les trouve. Deux cadavres enroulés dans une couverture. Supercase et son gendre sont là, devant le trou. Daniel Louis baisse les yeux, mais Jean-Étienne Supercase reste impassible. Pas pour longtemps. Il craque 15 jours plus tard dans le bureau du juge. Enfin, pas totalement. Il dit que pour Sylvie, le coup est parti tout seul. Et que donc, il a été obligé de tuer aussi Guy Renouf. Mais il dit aussi où il a planqué l'arme. Dans son hangar. Dans une cache aménagée dans un meuble. Et maintenant, vu le profil de ce quatuor de Zozo, capable de tuer pour pas grand-chose, on a du mal à imaginer que le meurtre de Guy Renouf et de Sylvie Moreau et le braquage du pharmacien et de sa famille soient leur premier coup. Est-ce qu'ils n'auraient pas commis d'autres crimes ? Vous vous souvenez qu'en perquisitionnant chez Daniel Louis, le gendre, les gendarmes sont tombés sur un pistolet, un 7.65. Naturellement, cette arme a été envoyée à la balistique. Et là, surprise, elle a déjà servi, il y a 6 ans, dans le braquage d'un parfumeur. Et surtout dans le meurtre d'un brocanteur de Bayonne, Roger Landrieux. Il faut que je vous raconte cette histoire. C'est un crime d'une froideur incroyable. Le 14 février 1992, à 8h50 précise,
commissariat de Bayonne, j'écoute.
Les policiers de Bayonne sont appelés dans un magasin de l'avenue du Maréchal Soult, que les gens de là-bas appellent encore la National 10. En entrant dans une boutique d'antiquité, des touristes ont trouvé l'antiquaire Roger Landrieux, mort, en bas de l'escalier qui descend à sa cave. Mort et dans une drôle de position. À moitié nu, le pantalon et le slip baissés jusqu'aux chevilles. Du sang partout, avec des giclures sur les murs. Le tueur a dû essayer de nettoyer, il y a des traces d'essuyage et un pull et une écharpe maculés de sang. Les policiers débarquent au magasin, ils font le tour, il a été fouillé, ça se voit. Est-ce que quelque chose a été volé ? Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que le mort qui pourrait le dire. Cela dit, le pantalon sur les chevilles oriente vers un crime sexuel. Sauf qu'à l'autopsie, pas de traces de sperme, pas de traces de viol. Donc c'est une mise en scène. Alors, est-ce que quelque chose a été volé ? Dans le bric-à-brac de la boutique, c'est pas facile à dire. Les policiers font appel à un ami de Roger Landrieux, antiquaire lui aussi.
Je ne suis pas certain à 100%, mais il me semble qu'il manque une iconographie du XVIIe siècle qu'il m'avait montrée. À votre connaissance, elle avait de la valeur, cette iconographie-là ? Ah non, non, enfin, elle valait pas plus de 1000 euros, quoi.
De quoi est mort Roger Landrieux ? En fouillant sa boutique et le logement attenant, les policiers trouvent 3 douilles. Et le légiste confirme qu'il a été tué de 3 balles, ou plutôt exécuté d'ailleurs. 2 balles, pan pan, à bout portant dans le poumon gauche, et la 3e, pan, dans la nuque. D'après le docteur, il n'est pas mort sur le coup, les balles ont provoqué une hémorragie, et il est mort à petit feu, étouffé par son sang. À l'époque, On n'arrive pas à identifier le tueur du brave Roger Landrieux. Un homme discret, d'après ce qu'on dit. Un solitaire, un vieux garçon, un mouchourdine, comme on dit au Pays Basque, qui n'avait pas beaucoup d'amis, mais à qui personne ne connaissait d'ennemis. Les douilles et les balles extraites du corps sont envoyées pour expertise au laboratoire de la police scientifique de Toulouse. Le retour du labo est très intéressant.
Bon, j'ai regardé ce que vous m'avez envoyé là. Bon, comme vous vous en doutez, c'est du 7,65. Et il a été tiré par un pistolet semi-automatique de marque unique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arme utilisée a laissé sur les balles des marques très caractéristiques, hein. Des rayures orientées à gauche, larges d'un millimètre. Bon, on va passer tout ça au fichier pour voir si cette arme a déjà été utilisée, d'accord, hein ?
Et bingo ! Elle a déjà été utilisée. Dans le braquage d'une parfumerie, il y a 2 mois, pas loin, au nord de Bayonne, un peu avant Noël, à la fermeture, un type cagoulé, ganté et armé, débarque dans le magasin.
« Je veux l'argent tout de suite, sinon je te tire dessus !»
Le parfumeur refuse.
« T'auras rien du tout !»
Le type tire alors 2 coups de feu, dans les jambes du parfumeur, et il prend la fuite. Le parfumeur est sérieusement blessé. On lui demande de décrire son agresseur.
Il n'avait pas l'accent du coin, hein, ça, c'est sûr. 1m80 environ. Le reste, je peux pas dire, il était cagoulé.
Les gendarmes mettent en place un plan épervier. Ça ne donne rien. Et c'est donc le même type, en tout cas, c'est la même arme, qui tue 2 mois plus tard à Bayonne le brocanteur Roger Landrieux. À l'époque, ces 2 enquêtes ne vont pas loin. Les 2 juges d'instruction décrètent chacun leur tour un non-lieu. Mais là, 6 ans plus tard, l'arme a parlé. C'était donc Jean-Étienne Subercase. Il l'a déjà tué, il y a 6 ans. Et interrogé, il avoue. Ces 2 fois-là, il était seul. Il a tué Roger Landrieux pour lui voler une icône du XVIIe siècle, dont je vous rappelle la valeur. 1000 balles. Subercase a donc tué 3 fois. Mais est-ce pour autant un tueur en série? Eh bien non. C'est juste un voleur pour qui la fin justifie les moyens. S'il faut tuer pour voler, alors tant pis, il tue. Il a entraîné toute sa famille derrière lui. Et tout ce petit monde va se retrouver devant la cour d'assises. Mais avant de juger Subercase, juste une question. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou cet homme qui tue froidement pour voler les gens? L'expert psychiatre qui l'a examiné le range dans la catégorie des psychopathes. Un type qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions et encore moins de remords. Un type qui a vécu toute sa vie selon sa propre morale, selon ses propres lois. Et les autres? Sa femme Dorothée a toujours été dépressive et manipulable. Et sa fille Sandra est devenue sa complice juste pour exister dans ses yeux. Quant à son gendre, qu'il n'aime pas, il l'utilise. Il lui fait peur. Subercase avait indéniablement de l'emprise sur tous les 3. C'est à la cour d'assises maintenant de faire le tri sur la responsabilité des uns et des autres. Le procès s'ouvre en juin 2001 devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan. On aurait voulu que Jean-Étienne Subercase parle, qu'il s'explique, qu'il se livre. Il ne dit rien. Il se mure dans le silence. Il avait prévenu le président avant l'audience. Il a tout dit pendant l'instruction. Il sait qu'il va finir sa vie en prison. Il ne dira rien de plus. Et les 3 autres, à chaque fois qu'on leur pose une question, se tournent vers lui, genre « Qu'est-ce qu'il faut que je réponde ?» Il est resté le chef. Ce procès est marqué à sa toute fin par une scène terrible et assez révélatrice. L'avocat de Jean-Étienne Subercase se lève pour plaider. Et il s'évanouit.
Vous voulez qu'on appelle les pompiers ou le SAMU, maître? Non? Ça sera pas la peine. Je vais me reposer un peu et reprendre.
Il veut reprendre sa plaidoirie. Il s'évanouit à nouveau. C'est un acte manqué. Comment défendre un homme indéfendable? Et c'est finalement son associé qui finit la plaidoirie à sa place. Et à la fin, le chef est condamné au max. Jean-Étienne Subercase prend perpète, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, incompressible. Daniel Louis, qui l'a embobiné, est condamné à 20 ans. Et Dorothée Lévesne, son ex-femme, finalement, est lavée de la complicité de meurtre. Elle prend 7 ans pour recel de vol à main armée. Et la jeune Sandra, elle aussi, est condamnée comme une complice secondaire. Elle prend 5 ans, dont 3 seulement fermes. Le verdict consacre Jean-Étienne Subercase comme le grand manipulateur de cette épopée criminelle. Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant. C'est assez rare avec le président de la cour d'assises qui a condamné le quatuor à l'époque en 2001, donc à Mont-de-Marsan. Vous êtes là, Laurent Tignol.
Oui, je vous entends.
Juste une question préalable avant d'entrer dans les détails de cette histoire. Mais en général, quand on appelle comme ça les acteurs d'un procès qui a eu lieu il y a 18 ans, ils nous disent « Oh là là, je me souviens plus du tout de cette histoire, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous aider. » Et vous, spontanément, vous nous avez dit « Oui, je suis capable d'en parler. » C'est donc qu'elle vous a marqué ?
Écoutez, c'était peut-être l'histoire qui m'a le plus marqué dans ma carrière de président de cour d'assises. Vous en avez fait un récit qui est à la fois complet et qui a pu ressusciter chez moi un certain nombre de souvenirs ou d'aspects du dossier que j'avais oublié.
Bon, elle vous a marqué pourquoi ?
D'abord, la lourdeur des crimes qui étaient imputés à toute la bande. On est sur 2 assassinats, 1 meurtre et des coups et blessures avec armes, en ce qui concerne Subercase. Et quand je parle d'assassinat, je dirais presque c'est des cas d'école, c'est-à-dire que c'est l'assassinat programmé, le véritable assassinat. La veille, 24 heures avant, le projet était tout à fait défini et tout à fait mûr dans la tête de Subercase, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé ces deux personnes avec l'intention, 24 heures avant, de les tuer une fois qu'ils auraient obtenu ce qu'ils cherchaient. On voit des crimes avec des gens qui sont emportés par la passion, par la folie, par la jalousie, même des assassinats qui sont provoqués par la jalousie. C'est le mari jaloux qui attend l'amende avec un fusil, mais cette froideur et cette détermination dans la conception du crime, c'est quand même assez rare.
Alors Laurent Tignol, repartons de la peine au fond, parce que cette peine qui est donc concernant Subercase, perpétuité accompagnée d'une peine de sûreté de 22 ans incompressible, signifie que vous le considérez comme extrêmement dangereux. Pourquoi est-il dangereux, Subercase ?
Écoutez, il a pris la peine maximale prévue par le code pénal. On ne peut pas, en France, prendre une peine plus lourde que ça, perpétuité plus la peine de sûreté maximale. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il y a la gravité des crimes qu'on lui reconnaissait, leur nombre. La dangerosité de Subercase...
C'est sa froideur.
Non, mais je crois que d'abord la peine, c'est surtout la série de crimes qu'on lui a imputés. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est pas un psychopathe. À la limite, un psychopathe serait plus dangereux. Subercase était quelqu'un de... C'est pas un tueur en série. C'était un peu l'opposition que j'avais avec l'avocat général, qui avait tendance à considérer que c'était plutôt un serial killer. Et moi, j'ai pensé plutôt que c'était... Et je vous rejoins sur ce point, que c'est plutôt une personne totalement dénuée d'affect et amoral qui tue parce qu'il a besoin, mais il ne trouvait pas une jouissance particulière dans le fait de tuer.
Il tue vraiment pour pas grand-chose, parce que le butin, à chaque fois, est assez misérable. Ça ne pèse rien par rapport au prix d'une vie.
Il n'y a pas grand-chose qui pèse par rapport au prix d'une vie, mais effectivement, les butins sont assez misérables. Alors, il y a chez Subercase un caractère qui doit être noté. C'est la soumission qui a été la sienne à la peine, à son procès, l'idée qu'il avait abandonné tout besoin de se défendre et qu'il était intimement persuadé qu'il finirait ses jours en prison et que finalement cela lui convenait. Il y a un côté un peu curieux chez lui qui était peut-être le plus déroutant, c'est-à-dire cet homme froid, calculateur, un peu gourou, entraînant sa famille dans une dérive criminelle. Il était aussi capable d'accepter qu'il finirait ses jours en prison. Et en prison, il menait une œuvre un peu pédagogique, d'une certaine façon, en ayant créé un journal au sein de la prison, un journal fait par les prisonniers, dans lequel il éditait de la poésie et des choses comme ça. C'est assez étonnant, assez paradoxal.
On a dit à l'époque que c'était parce qu'il avait été parachutiste qu'au fond, il était soumis comme ça à la justice et qu'il trouvait légitime d'être condamné à perpétuité.
Ça vous paraît tenir, ça ?
C'est possible, ou c'est possible. Je pense que Cybercase est une personne intelligente. C'est le genre de personne que vous rencontrez dans un restaurant, un jour que vous promenez en campagne, hein, vous arrivez dans un restaurant inconnu, on vous met à une table à côté d'une personne comme lui, vous pouvez engager une conversation et avoir une conversation intéressante. Hein, il était curieux, il connaissait pas mal de choses, un aspect esthète aussi qui n'était pas négligeable, et un besoin de reconnaissance sociale. Tout ça a été mélangé. Et aussi, tout d'un coup, la soumission à... Enfin, comment dire... la soumission à un destin, un peu. C'est un peu comme ça que je le sentais. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été pris, finalement, il ne s'est pas beaucoup défendu.
Oui.
Et remarquez bien, maintenant, vous évoquez son histoire et vous évoquez le fait qu'il a lui-même donné des éléments qui ont permis de l'incriminer.
Mais il livre la cage dans laquelle il y a les clés, et les clés qui permettent de l'incriminer dans la disparition de Sidi Moreau et de Guy Renouf.
Eh oui. C'est assez étonnant quand même, comme s'il avait été arrivé au bout d'un parcours criminel qui n'avait plus de sens à aller plus loin, pourquoi ? Et que donc la suite logique, c'était d'expier.
Concernant son épouse, il y a eu débat, je suppose, au moment du verdict, parce que il y a deux hypothèses. Soit c'est elle qui lui dit, dis donc, moi je connais un brocanteur qui s'appelle Guy Renouf, qu'entre parenthèses j'ai dragouillé, peut-être qu'elle lui dit pas ça, mais qui a sans doute de l'argent planqué quelque part, on pourrait s'en prendre à lui. Et donc, à ce prix-là, elle aurait été lourdement condamnée. Elle n'est finalement condamnée qu'à 7 ans de réclusion criminelle, ce qui est assez peu, et vous ne retenez pas la complicité d'assassinat et uniquement le recel. Parce que c'est une pauvre femme manipulée?
Non, je crois pas. Je pense que c'est simplement on manquait d'éléments probatoires. C'est pas l'impression qu'elle faisait. Elle était sous l'emprise de Cybercase. Cybercase tenait tout le monde sous emprise. Il tenait notamment son gendre sous emprise et sa fille. Mais le procès, ça a été un peu l'occasion d'une révolte de certains d'entre eux. Notamment de la fille qui s'est tout d'un coup...
désolidarisée.
Toute sa vie, elle avait été sous la domination de cet homme qui au-delà d'être son père, avait fait d'elle une voleuse, sans lui laisser le choix. Quant à Louis, c'était un grand escogriffe, n'ayant pas les mêmes capacités intellectuelles que Cybercase, et qui a été manipulé par Cybercase, qui se retrouvait aux assises, alors que dans le fond, c'était un suiviste, quoi. Alors sa femme, je saurais trop quoi dire. Je pense que la cour d'assises a bien fait de ne la condamner que pour recel, parce qu'on n'avait pas la certitude. Enfin, elle a quand même pris 7 ans. Pour un recel, c'est quand même assez grave. Je pense que même si elle n'était pas au courant du projet criminel antérieurement au recel, elle était au courant après.
Merci beaucoup, Laurent Tignol, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire, l'affaire Cybercase.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.